fiscale. Fondation Caritas France, au plus près de ceux qui s'engagent.
Vous écoutez France Inter, il est 20h. Le flash d'information, Maxime Glorieux.
La Nouvelle-Calédonie est loin d'un retour à l'apaisement. Les mots de la maire de Nouméa, qui évoque une ville assiégée, et ce malgré l'arrivée des renforts, un millier de forces de sécurité supplémentaires. Avec un sixième mort tôt ce matin, le premier en dehors de la capitale, un père de famille tué dans un échange de coups de feu alors qu'il tentait de forcer un barrage. Après la Moselle, autour de la Meurthe-et-Moselle, placée en vigilance rouge pour un risque de crue, particulièrement dans le secteur de Lunéville. L'eau pourrait atteindre jusqu'à plus de 3 mètres de haut dans la nuit. En Moselle, la situation se stabilise, indique à l'instant la préfecture, place à une lente décrue. Le Bas-Rhin est en orange ce soir. Emmanuel Macron appelle les habitants de ces trois départements à la prudence. Dans un message sur le réseau social X, le chef de l'État remercie l'ensemble des forces de secours et tous les services mobilisés. Gérald Darmanin, lui, sera de retour à Rouen ce lundi pour décorer le policier qui a abattu le jeune homme qui tentait d'incendier la synagogue de la ville. Le ministre de l'Intérieur prévoit également de décorer les premiers policiers et pompiers à être intervenus sur place. Et puis un jeune homme de 19 ans est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. 3 jours après la mort d'un adolescent à Poitiers, poignardé sur le parking de la fête foraine lors d'une rixe entre deux bandes rivales. 800 000 Palestiniens ont fui Rafah au sud de la bande de Gaza, et ce en moins de 2 semaines. Estimation d'une agence des Nations Unies, l'UNRWA. L'État hébreu annonce ce soir de son côté avoir rapatrié le corps d'un otage israélien retrouvé à Gaza avec 3 autres otages dont le rapatriement avait été annoncé hier. L'état de santé du Premier ministre slovaque s'améliore, mais Robert Fico reste gravement blessé, victime d'une tentative d'assassinat mercredi. Le tireur, un retraité isolé, a été placé en détention. En Géorgie, c'est une loi qui a mis des milliers de manifestants dans la rue, rejoint aujourd'hui par la présidente géorgienne qui met son veto à cette loi sur l'influence étrangère. Une loi russe dans son essence et qui contredit notre constitution, explique la présidente. Un veto symbolique car le parti au pouvoir à l'origine de cette loi assure avoir déjà le nombre de voix suffisantes au Parlement. La mise en vente aujourd'hui des billets de train pour le 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Des billets seulement pour des trains partant avant 16h. La circulation sera ensuite coupée pour des raisons de sécurité, et indique la SNCF. Et puis en top 14 rugby, à 2 journées de la fin de la saison, Toulouse est le premier club qualifié pour la phase finale. Victoire sur Montpellier, qui va devoir lutter pour ne pas passer par les barrages. Lyon et Bayonne ont assuré ce soir leur maintien.
France Inter, 13h20, Nathalie Yanetta.
Ce dimanche, dans l'Esprit Sport, rendez-vous avec une athlète qui va faire ses 7e Jeux Olympiques. Médaille d'argent à Rio. Mélina Robert-Michon est notre invitée.
L'Esprit Sport, tous les dimanches à 13h20 sur Inter.
Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations.
Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40.
France Inter, 20h passées de 4 minutes, place à En Marge avec Julia Foïs.
Maxime Glorieux, merci. Les infos reviennent toutes les heures sur France Inter. Boulette, tu grandis. Il faut surveiller que tu n'aies pas de mauvaise fréquentation, pas d'homme. Ne me contrarie pas sur ce point. Tu crois que je suis une aliénée, n'est-ce pas? Eh bien non, la cinglée, c'est toi. Il n'y a qu'à voir comment tu te comportes en traînant tout le jour durant. Et grosse dame, tu crois qu'elle n'est pas dans le coup de la dinguerie par hasard? Je me demande si tu mérites d'être ma fille. Tu le serais si tu pensais à ton avenir en préservant ta pureté. Et l'avenir de la santé mentale, c'est de préférer les succès scolaires. D'ailleurs, il serait bon que tu révises ta gymnastique, tes mathématiques, le 25. Qu'en est-il du zoo ? Dame sociale nous a autorisé à y aller. Organiser une sortie, elle a dit oui, mais il faut la décider réellement. Cette parole n'est pas une médisance ridicule, mais un réel constat. On me fait miroiter la réalisation de mes envies et de mes désirs, tout en riant derrière mon dos, et je déteste ce produit contenu dans la menthe du dentifrice si corrosif qu'il a entamé mon estomac. D'ailleurs, j'en ai répandu sur une éponge et ça a attaqué le tableau. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cherche-t-on à me détruire ? Il semblerait que le trafic d'enfants ne cesse d'évoluer. Je vois sans arrêt de nouveaux cas d'enfants volés. J'ai écrit au juge pour les mioches à ce propos. Le juge ne le sait pas, tu es en danger moral et physique. Battu et menacé, violé par trois hommes à leur tour, au rez-de-chaussée, gauche, deuxième porte. J'ai des témoins, violés, agressés, estropiés, oui. À chaque colonie de vacances, c'est la même histoire. Tu te retrouves molesté chez des personnes de l'immeuble qui t'invitent à une partie de Scrabble. Ça n'est pas une vie pour une personne, c'est indécent de traîner sur le trottoir. Il faut que tu sois scolarisé. À la rentrée, tu iras en pensionnat, tu survivras décemment. J'assurerai ton entretien à grand renfort de caleçon, blue jean, blouson, chaussures et pizza par voie postale. À ce propos, verrais-tu un quelconque inconvénient à ce que je t'achète un body ? Et puis, il faut être gentil de porter le pull rouge décolleté en jacquard que je t'ai offert. Tu ne le mets jamais ? J'ai honte.
En marin. Julia Foyce sur France Inter.
Bonjour Joël Varenne.
Bonjour.
Le sacre du printemps pour vous accompagner à un bon début pour cette balade en marge. Il me semble, il vous évoque quoi ce sacre ?
Le renouveau qui peut toujours advenir dans des moments les plus extrêmes. La régénérescence, le printemps.
Il y a quelque chose d'assez brutal, d'assez rude dans cette musique-là et en même temps comme un jaillissement de la vie. C'est ça votre rapport à la vie, votre vision de la vie, c'est ça ? C'est qu'il y a toujours des choses qui se heurtent comme ça ?
Toute naissance a une part de violence, je pense. Mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce sacre du printemps.
J'ai dit Boulette, tu grandis. J'ai lu des extraits de Boulette, votre dernier livre. Qui est Boulette ?
Boulette, c'est moi. Mais c'est une réinterprétation, en quelque sorte.
Autour de Boulette, il y a cette mère, celle qui écrit, mère avec un M majuscule dans le texte, mère fantasque, mère ébréchée, dont on a pris l'enfant pour la confier à grosse dame sous l'œil affûté de dame sociale. La langue est poétique, elle danse, elle enchante. Vous inventez des mots pour les mettre dans la bouche de Boulette, dans la tête d'un enfant. Le récit, lui, vous ne l'inventez pas. Le matériau de départ est même très documentaire, c'est ça ?
Oui, en fait, étrangement, le point de départ, quand j'étais étudiante, je posais comme modèle. Et cette expérience, en fait, m'a amenée à me poser des questions par rapport au rapport que j'avais à mon corps. Et donc, j'ai commencé à écrire sur ça. Et finalement, j'ai commencé un peu à dévier sur l'idée que j'avais du modèle féminin et, disons, de l'absence de modèle que j'avais eu dans ma vie de femme. Et donc, me sont revenus en mémoire des moments de mon enfance, de mon adolescence et de qu'est-ce qu'était une femme. Pour moi, c'était une énigme en quelque sorte. Et je pense que j'ai posé aussi pour ça. Et à un moment, j'ai fait face à une pénurie de souvenirs. Mmh. Et donc, j'ai fait la démarche assez tardive d'aller consulter mon dossier à la DAS. Et dans ce dossier, qui est un dossier qui appartient à l'État, donc on ne peut pas récupérer les pièces, on peut les consulter sur place. C'est un dossier qui est constitué d'énormément de documents. On a des décisions judiciaires, des rapports de psychiatres, de travailleurs sociaux, des échanges de lettres, une correspondance. Et en fait, j'ai eu accès à tous ces documents et quelque part, ça m'a aidé à reconstituer mon histoire, parce qu'il y avait même une chronologie sur les faits. Et donc, du coup, ça m'a permis de me réapproprier mon histoire. Donc, en même temps, la consulter, c'est comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Et en même temps, c'était la mienne. Et le fait de la réécrire, c'était une manière de me la réapproprier.
Et de lui injecter autant de beauté et de drôlerie. Parce que c'est ça qui est fort. C'est que si le matériau de départ, il est assez
austère, je suppose, comme peuvent l'être les dossiers, avec une écriture administrative, technique, etc. L'histoire a ses duretés, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous en faites quelque chose qui est bondissant, d'où jaillit la vie. C'est votre sacre du printemps, en fait.
je pense que rire, c'est le meilleur remède au pire. J'ai pas à chercher à être drôle.
Non, mais c'est au-delà, c'est-à-dire que vous créez une langue, vous inventez des mots véritablement dans la bouche de cet enfant, et c'est ça qui est assez prodigieux. Là, cette force-là, Boulette, elle lui vient de vous. On va la suivre, on va vous suivre de vos toutes premières heures jusqu'au premier envol de Boulette. Vous nous direz ce qui vous a poussé un jour à écrire son histoire, mais si on commençait par là, par ici, par maintenant, dans ce studio, je vous donne ce miroir, Joëlle Varenne. Prenez le temps de vous regarder et dites-nous, qui voyez-vous ou que voyez-vous ?
Alors, qui je vois ? On a toujours tendance à voir les personnes aussi qui nous ont précédées, et en même temps la personne qu'on imagine être. Enfin...
Et vous laissez sans voix. Vous pensez à qui, là, quand vous regardez ?
Ah, je pense à May Blanche-Neige, ouais. Qui habite chez les sept nains, et mille fois plus belle que toi. Non, mais ça, c'est aussi le côté où, comme je disais tout à l'heure, on est nos propres fossoyeurs. Et il faut être gentil avec soi, parce que l'extérieur est déjà assez difficile.
Et là, si vous vouliez être gentil avec vous, vous diriez quoi ?
T'as de beaux yeux, tu sais.
Bah, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Joëlle Varenne, de La Tour des Enfants Perdus à Ingmar Bergman, de La Cité Baudelaire à Une Cabane au Fond du Jardin. On vous suit en marge ce soir avec Boulette et Belle Amie au féminin.
À quoi tu penses ? Tu penses à moi qui pense à toi ? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois ? Quand le vide est si dense, qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois ? Quand le crépuscule est immense, que le plan finit pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. Que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance, quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses ? La distance on s'habituera. Et l'absence tu crois, et le chacun pour. Prochaine séquence, le prochain fait pas. À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches ? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches ? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. Okay.
Junior et ce silence sur France Inter. Joël Varenne, vous écrivez « Au sortir de l'enfance, il n'y a que le silence. Mais alors on tait quoi ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on ne dit plus ?»
Cette phrase, elle est liée à un passage bien particulier qui est lié au moment où Boulette entre en âge d'être femme, en quelque sorte, parce qu'elle vient d'avoir ses règles. Elle n'a pas, justement, de référent, de personne pour lui montrer la voie, en fait. Mmh. Et du coup, elle se retrouve dans le vide, en quelque sorte. Donc, au sortir de l'enfance, il n'y a que le silence. C'est... Où est le mode d'emploi quand on vous dit « tu es une femme ?» Il faut te dépêcher d'être une femme.
Et c'est là où, chez Boulette, le tour de force de ce livre aussi, c'est que sa trajectoire est bien spécifique et en même temps, elle a quelque chose de très universel dans ce rapport au corps. Vous allez nous le raconter.
France Inter, En marge.
Vous ne le savez peut-être pas, mais on fait bosser nos invités, pas qu'un peu, hein, en amont de cette émission. On leur envoie un questionnaire très 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 long pour qu'ils nous racontent le goût de l'enfance, le parfum de l'adolescence, les sons, les musiques, les films qui les ont accompagnés. Et avec vous, Joël Varenne, c'était frappant, des réponses toujours courtes, très courtes, écrites en bleu, ça ressort, c'est mieux, mais toujours par deux, parce qu'il y a une mère naturelle et une famille d'accueil, il y a deux décors, deux couleurs dominantes, deux ambiances, et vous, vous naviguez de l'une à l'autre. Et je me suis demandé comment est-ce que ça construit ça, le fait d'avoir le pied à deux endroits différents. Est-ce qu'on se sent jamais nulle part chez soi ou au contraire chez soi partout ?
Non, c'est sûr que ça crée une forme de schizophrénie, je pense, par rapport à nos choix, par rapport à... La question de la place a toujours été une question importante pour moi.
Est-ce qu'on est aussi plus adaptable que d'autres qui grandissent avec l'espèce de certitude qu'il y a un endroit au monde et qu'ils ont une identité ?
Oui, c'est vrai que moi j'aime bien faire le grand écart, passer une première partie de soirée dans un univers très bourgeois, puis la deuxième dans un bar à Belleville où tout le monde fume des cigarettes et tout le monde est ivre mort. Enfin, j'aime bien ça. Enfin, je crois que j'ai peut-être un peu ce côté où fille de personne et donc du coup je peux aller partout.
On va commencer par votre mère naturelle, puisque techniquement, c'est avec elle que tout a démarré. Votre père naturel, vous ne savez rien de lui, mais elle, c'est Françoise. Fantasque et inquiétante, dites-vous. Mais encore.
Et en même temps, assez comique, dans son genre. Avec le temps, en fait, c'est vrai que j'ai vu ma mère un peu comme un personnage un peu monstrueux pendant très longtemps. Et puis, en faisant un vrai travail et en faisant la démarche d'aller vers elle, je me suis rendu compte aussi que c'était quelqu'un qui avait été victime de beaucoup de choses, qui n'avait eu pas beaucoup de chance, pas beaucoup d'écoute, hein, et qu'en soi, il faut protéger les faibles, hein, enfin, et que quelque part, la douleur que je pouvais ressentir, je la retrouvais aussi chez ma mère. Hein.
Mère est une jeune femme aux yeux clairs, aux cheveux décoloriés, à l'oxygène. Elle se présente au monde la plupart du temps ébouriffée, avec des vêtements trop grands ou habillée en petite fille. Du haut de sa taille moyenne, elle s'exprime d'un ton agressif, tour à tour passionné ou nonchalant. Ça, c'est dans le livre. Dans la vie, elle est plutôt désenchantée. Ah bah oui, on est obligé de la chanter. Hein.
C'est intemporel. Hein.
Et en même temps, on ne comprend pas tout ce qu'elle dit. Pas tout, tout. Ceux qui savent, savent. Étrange, mystérieuse et fantasque, Mylène Farmer. Elle aussi, en quoi est-ce qu'elle pouvait faire écho en votre mère ? Qui écoutait beaucoup cette chanson-là.
Il y a quelque chose dans cette chanson et aussi de cette époque, des années 80, qui est un peu dans l'état d'esprit de ma mère, de quelqu'un qui cherche une âme qui pourra l'aider. Et je crois que c'est aussi lié à ces années-là, pour moi. Enfin...
La vie de votre mère dans les détails, vous ne l'avez pas. On dira qu'elle a dans ses bagages un mélange de violence et d'abandon et une méningite non soignée qui occasionnera chez elle un certain nombre de troubles d'attitude hors normes, de décisions déroutantes. Votre naissance, par exemple, pas franchement banale, qu'est-ce que vous en savez ?
Ce que j'en sais, c'est ce qui était dans le dossier et puis ce que m'a raconté ma mère. apparemment, oui, le médecin serait arrivé trop tard et elle aurait accouché à domicile. Enfin, je suis.
Et elle aurait coupé le cordon elle-même.
C'est ce qu'elle m'a
c'est
dit.
C'est ce qu'elle dit.
Mais ouais. Moi, je suis née à Saint-Ouen, au 31 rue Villabiron, près du marché des puces. Hein. Et en 82, le 6 décembre, à 7 heures du matin. Donc, c'est sûr, je suis née à domicile. Donc, je suis née. C'est peut-être pour ça que j'aime. Les antiquités.
Ouais. Elle a déjà un suivi psychiatrique à l'époque. Hein. À votre arrivée, son médecin s'interroge donc sur l'opportunité de la laisser vous élever. Des somnifères détectés dans son sang vont le décider, il va falloir vous placer, sauf que votre mère ne l'entend pas du tout de cette oreille. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous garder près d'elle ?
Elle me cache.
Comment ?
Elle essaye d'échapper aux services sociaux, aux rendez-vous de la PMI. Elle part très tôt le matin dans des magasins, des grands magasins. Elle rêve à toutes les choses qu'elle pourra s'acheter quand elle sera riche, de tout ce qu'elle imagine. Enfin,
elle flotte, quoi.
Elle flotte. Je pense qu'elle a un enfant un peu comme pour ne pas être seule, quoi. Et donc, elle trimballe cet enfant.
Tout serré contre
elle.
Il n'y a pas de
différence entre elle et son corps, et le corps de l'enfant. Donc dans un rapport très fusionnel.
Sauf qu'un matin, la quantité de somnifères était sans doute un peu trop forte, elle n'arrive pas à se réveiller. Les services sociaux débarquent, vous êtes placé, vous voilà chez Grosse Dame. Grosse Dame adore les choses inutiles des supermarchés, l'électroménager, la nourriture, surtout quand c'est gras, et puis Daniel Balavoine.
Est-ce que pourrait se dire Boulette aussi
pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps.
Drôle de femme, Arlette. Hein, le jour où vous arrivez, elle organise une grande fête à la cité Baudelaire, là où elle vit. Elle va vous adorer, elle va vous choyer, elle va bien aimer aussi les allocations qu'elle va toucher. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue mère d'accueil ?
Ah, alors, c'était une femme qui adorait les enfants, mais ne voulait pas les concevoir.
Ça, c'est pas banal non plus. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Ah, il y a plein de choses qu'on ne dit pas dans les familles, mais qu'on sent. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Quand on voit des photos d'elle jeune, c'était une Italienne très très belle, très grande. Mais elle, comme elle était l'aînée d'une famille où le père était parti lorsqu'elle était très jeune, elle a dû arrêter ses études et travailler, donc jouer la deuxième mère. Et donc, du coup, elle a toujours eu ce rapport de proximité avec les enfants. Après, je pense qu'il y a certainement eu quelque chose de...
Violent ?
Ou de violent, ouais, dans le rapport au corps qui du coup, l'a séparée du sien. Et du coup...
L'a séparée de son propre corps ?
De son propre corps,
ouais.
Et éloignée
dissociation,
du corps des hommes.
Ouais.
Mais cette femme a eu un fils, un enfant naturel... Étrangement, sa prise de poids conséquente est liée aussi à cette grossesse. Et ensuite, je pense que c'est là où vraiment elle a instauré ce périmètre de sécurité pour qu'on ne l'approche plus. Et donc, du coup, elle était devenue une véritable maman qui, du coup, était entourée d'enfants qu'elle serrait contre elle.
Vous m'avez dit, en préparant cette émission, un monstre envers qui on était toujours redevable. Un monstre d'affection envers qui on était toujours redevable.
Oui, parce que c'était quelqu'un qui donnait énormément, mais comme quelque part elle avait voué une forme d'existence sacrificielle, il y avait une dette, ouais. Mmh.
À la maison, c'est un joyeux bordel, la télé allumée jour et nuit en bruit de fond continu, les animaux rapatriés de la SPA, et puis Tati Rosie, et puis ses petits échoués là pour cause de violences conjugales récurrentes. C'est donc dans ce contexte-là que va atterrir Boulette, petit bébé de 7 mois. Ses joues vont se colorier, écrivez-vous, elle va découvrir la mer, le plaisir de l'eau et le rire qui la secoue avec Grosse Dame. Boulette s'anime, se met debout, se met en marche, s'ébroue, et puis plus tard, elle danse aussi.
Et c'est tellement fascinant.
À chaque fois qu'on la passe, qu'on passe des chansons de lui, je me dis c'est fou ce qu'on a pu être fasciné par un pédocriminel. Pardon, c'est de la déformation professionnelle, mais ça me vient à chaque fois. Et c'est quand même ça. N'empêche qu'on a dansé, n'empêche qu'on a kiffé. Elle vous racontait quoi à vous cette chanson-là? De la suite, de l'après, de ce que vous pouviez devenir.
Bah, cette chanson aussi, elle parle d'une femme qui apparemment lui aurait écrit en lui disant que son enfant était son enfant. Jackson, ouais. Ouais. Donc je pense que peut-être inconsciemment, il y avait quelque chose de l'ordre de la reconnaissance du père pour moi. Mais c'est le son, c'est de le regarder danser, bouger, c'était tellement fascinant.
Il est comment votre père d'accueil, parce qu'on n'en a pas encore parlé?
C'était quelqu'un d'assez effacé, un homme-enfant, assez taciturne. Et puis bon, je pense que ça devait pas être simple d'être du coup amputé de sa vie d'homme. D'avoir une femme qui n'était plus une femme.
Qui en tout cas se coupait de son propre corps et de son désir. Alors vous grandissez au milieu des deux étranges petites filles, un peu dans la lune, tête dans les nuages, nez dans les livres, dans les cartons, à dessin. À l'école, ça se passe comment pour vous?
Pas très bien.
Parce que
de manière générale, même encore maintenant, ça m'arrive. Je me demande ce que je fais là.
C'est vrai?
Ouais. Comme si j'étais toujours un peu à distance des choses. Et l'école, alors autant, oui, il y avait des matières qui m'intéressaient, autant d'autres où vraiment, je n'avais pas envie d'être là, quoi.
Et avec les copains, les copines, dans la cour, ça se passe comment?
J'ai pas des grandes amitiés, quoi. J'ai toujours un peu l'impression d'être en marge, quoi. D'être à côté.
Peut-être pour ça que vous êtes là.
Moi aussi, ouais.
Vos deux mères naturelles et mères d'accueil vous gavent, vous l'écrivez. Elles gavent cette petite fille, elles la nourrissent, mais vraiment, ça, on est proche du gavage plus que tout. Vous arrivez au collège, vous faites déjà 78 kilos pour 1m53. C'est un corps armure ou c'est un corps ennemi?
C'est un corps dont en même temps je me sens complètement dissociée, quoi. C'est un poids, c'est là, c'est... Je sais pas ce que c'est en fait un corps. C'est comme si j'avais pas du tout conscience de mon être, quoi. Enfin, alors à la base cet enfant on l'a pas assez nourri, ma mère me nourrissait pas. Après on m'a gavée. Et après, le corps, bah, du coup, je faisais tout pour ne pas le voir, sauf qu'il
se rappelle à vous parce que vous êtes réglé très tôt.
Oui.
Vous avez une poitrine très tôt. La puberté déboule dans votre vie plus vite que prévu. Comment est-ce que vous le vivez? Comment le vivent vos mères?
Ah, comme une catastrophe. Moi, je ne sais pas ce qui me tombe dessus, en fait. J'ai 10 ans. Je vois cette chose rouge en allant aux toilettes. Je me demande ce que c'est. Je me dis, mais. Il y a des pubs à la télé, mais pourtant le liquide est bleu. Pourquoi moi c'est rouge? Du coup, ma mère s'en aperçoit parce qu'elle lave le linge et elle me dit il y a un truc qui pourra te servir dans le placard. Mais elle m'explique pas comment ça marche. Donc je me retrouve avec ça et je sais pas très bien comment faire en fait.
Elle vous offre aussi votre premier soutien-gorge que vous passez un long moment à cacher aussi et à ne pas porter. Mais on va dire que elle ne met pas les mots dessus, mais disons que ça n'est pas. C'est finalement des choses qu'ont vécu pas mal de petites filles. Ce qui est plus rare, c'est la réaction de votre mère naturelle qui se saisit de ça pour, je dirais, presque rentrer en vous et rentrer en votre intimité. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Comment elle vit, elle, votre puberté?
Ma mère naturelle, je pense comme une menace potentielle des hommes. Enfin,
elle vous alerte beaucoup sur le viol. Maintenant que tu as cet âge-là, tu vas être violée. C'est-à-dire que c'est comme ça.
Oui, oui, elle m'offre des préservatifs au lieu de m'offrir des serviettes hygiéniques. Mais bon, bref, je reçois des lettres absolument délirantes. Mais je pense que quelque part, malgré tout, il y a un geste d'amour derrière ça, de protection.
Oui, et en même temps, pour vous, à l'époque, c'est trop. Et vous en parlez aux services sociaux et elle repart en HP à ce moment-là.
Oui, parce que c'est très intrusif. Ouais. Déjà que je ne sais pas comment faire avec ça et que de l'autre côté, ma mère n'accueille... me dit il faut faire ça parce qu'il faut le faire, enfin, mais il m'explique pas, donc du coup c'est un peu la catastrophe.
Vous partez un été chez un oncle, il a une fille, Fifi, du même âge que vous, il est sympa, il vous emmène partout, il boit un peu, il drague toujours la patronne du bar, mais bon, vraiment, avec vous, il est sympa. Et puis un jour, il boit peut-être un peu trop d'anisette, peut-être pas, peut-être que dans sa tête c'était prévu comme ça. Et dans le train fantôme, à la fête foraine, il outrepasse ses droits. Est-ce que vous pouvez en parler à quelqu'un de ça, Joël Varenne, de ce qu'il vous fait ce jour-là?
Non, en fait j'ai enfoui ça pendant des années, et des années, Et je pense qu'en plus, bizarrement, cet enfant, elle a de l'affection pour cet oncle, parce que pour la première fois, il y a une figure masculine qui vient vers elle, qui lui offre des bonbons, qui lui tient la main, qui l'appelle ma bouclette. Elle se dit, c'est chouette, il y a un homme dans ma vie. Et puis bon, il l'a trahi, mais en fait, j'ai enterré ça. J'ai enterré.
Vous avez 13 ans, l'enfance s'est terminée, le voile s'est déchiré, comme les jeans qui se sont troués, les jeans destroy, on disait ça comme ça, vous êtes rock, vous êtes grunge, vous êtes de la génération des enchantés, vous aussi celle qui écoute Kurt Cobain, celle qui broie du noir, celle qui fait des ronds de fumée. Joël Varenne, au moment où vous écoutez Kurt Cobain, vous fréquentez un garçon de 10 ans, votre aîné, ce qui lui en fait donc 23 d'année. Il aime autant le rock, autant les bars que vous. Il aimerait vous faire aimer l'amour, en tout cas. C'est comme ça qu'il voit les choses. Ça se passera dans une dépendance, au fond d'un terrain en friche. Il va adorer. Vous moins. Il va vous demander, ça t'a plu? Vous allez répondre, non. Il a quelle valeur, ce nom?
C'est en quelque sorte la première fois que je prends la parole. Parce qu'en fait, quand on est enfant, souvent, on ne nous demande pas trop notre avis. Mmh. Ou alors, on nous demande « ça t'a plu ?» Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre. Et en fait, Boulette, elle ne sait pas très bien en fait, ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. Quoi. Mais quelque part, sauf là, parce que je crois que justement, ça passe par le corps. Et quelque part, ça la réveille.
Vous le quittez sans un regard, mais avec à la main un livre de Maupassant, pas n'importe lequel, c'est Bel Ami. Il vous fait quoi, ce Bel Ami?
Ce Bel Ami, en quelque sorte, il me sauve, même si c'est un personnage qui a des côtés quand même très détestables.
Mais c'est quelqu'un qui va prendre une revanche, et ça, ça vous parle.
Exactement. Ouais. Qui veut devenir quelqu'un.
Ouais.
Et je pense que c'est ça, c'est vraiment un livre qui m'a... C'est ça. Il prend sa revanche et quelque part, j'ai vécu à travers lui.
Une semaine plus tard, vous rendez un devoir de français. Le prof distribue les copies de la plus mauvaise à la meilleure. Le prof s'arrête. J'aimerais que l'auteur de ce devoir vienne à mon bureau et le lise devant la classe. L'auteur, c'est elle, c'est vous, c'est Boulette. Elle se lève de sa chaise et d'un pas encore mal assuré, prend sa place. Ce qu'elle a passé sous silence s'envole. Boulette prend la parole. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
pendant Strange, les Doors sur France Inter, grâce à vous, Joël Varenne, et merci. Mais alors, cette chanson-là, parce que les gens sont étranges ou parce que Jim Morrison ?
Ah, les deux, mais j'ai énormément écouté les Doors dans mon adolescence. Mais oui, cette chanson, elle peut être vue à travers les yeux de Boulette, en quelque sorte, aussi.
Sur l'étrangeté.
Sur l'étrangeté, de ceux qui le vivent. Sur ce que je disais, sur ce rapport à la distance aux choses, où on a l'impression d'être un témoin silencieux, plus qu'un acteur.
Parce que l'intime est politique, on vous suit en marge ce soir, vous et Boulette, votre héroïne qui donne son nom à votre dernier roman. On l'a quitté avec Bellamy à la main. On la retrouve à Moscou, en transit.
France Inter. En marge.
Уважаемые пассажиры, рейса 15-16, авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии «Сургут». Посадка самолета начнется через несколько минут.
Qu'est-ce que vous faites à Moscou?
À Moscou, à Moscou. Comme disait Macha, je crois.
C'est un voyage scolaire, c'est
ça? C'était un voyage scolaire. J'étais au lycée autogéré.
C'est quoi un lycée autogéré?
Alors, un lycée autogéré, c'est un lycée qui s'est monté en 82, après Mitterrand. Donc, on a le même âge. Même si là, justement, il y a une décision pour le fermer. Enfin, c'est un peu tendu en ce moment. Mais donc, c'était un collectif de professeurs et d'élèves qui voulaient une autre forme d'éducation. Qui n'était pas spécialement un endroit pour passer le bac, mais un endroit collectif pour apprendre des choses, pour faire des choses, pour apprendre autrement. Je suis arrivée là-bas en 97. Et donc, c'était une structure autogérée où il n'y avait pas d'équipe administrative. Et du coup, le lycée était géré par les élèves et par les profs, quand même plus par les profs, mais en tout cas, on avait un système d'AG et de vote pour les décisions du lycée. On faisait aussi le ménage, bon, c'était une des choses, mais...
Et c'est Bellamy qui vous y a conduit, parce que Bellamy libère quelque chose chez vous, de l'ordre de la parole, de l'écriture, du goût des mots. Vous avez cherché où vous pourriez le nourrir, ce goût, et vous avez, en cherchant au CDI, je crois, de votre collège, vous avez trouvé ce lycée autogéré, option théâtre. Vous y arrivez, et cette fois-ci, l'école vous va bien?
Ah oui, cette fois-ci, l'école me va bien. Mais là, il est plus question de notes, de contrôle d'absence. Donc, bon, les premiers temps, je fais un peu n'importe quoi, ce qui est normal.
Normal.
Mais en fait, je m'accroche parce que je rencontre plein de monde. On était 250 au niveau des élèves, 25 profs. Et donc, je fais plein de voyages. Notamment, oui, je vais en Russie en 98. Donc,
un choc, m'avez-vous dit en préparant cette émission. Pourquoi un choc esthétique, un choc de quel ordre?
Vraiment, je n'avais jamais été vraiment loin, quoi. J'avais grandi dans une banlieue de Paris. Et là, j'étais vraiment face à une misère, peut-être, où je me rendais compte que mon sort n'était pas si difficile. Enfin, je me rappelle de la babouchka qui dormait dans la cuisine par terre. Enfin, mais ils étaient extrêmement gentils. Et puis, il y a eu, je pense que c'était un peu une entrée en matière pour moi, pour entrer dans la littérature russe après. Et parce que bon, Dostoïevski fait partie de mes auteurs préférés. Enfin, mais je sais pas. Peut-être j'ai un peu l'âme russe. Peut-être j'imagine que
avec toute sa mélancolie.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans lequel je me suis reconnue aussi là-bas.
En fait, c'est le cinéma plus que le théâtre ou la littérature qui va vous happer au départ. Vous entrez en fac de cinéma et la deuxième choc après Moscou, après la littérature russe. Ça se passe au Saint-André-des-Arts, cinéma d'art et d'essai, bien connu des cinéphiles. À l'écran, Persona d'Ingmar Bergman.
In these words, the leading film critics of Europe have honored Ingmar Bergman's new film, Persona. Persona is a knowledge, a terrible knowledge of our loneliness, our estrangement, our inability to reach one another.
Vous vous souvenez de l'état dans lequel vous êtes au moment où vous voyez ce film pour la première fois?
En fait, c'est comme s'il y avait les deux parties de moi, en fait, dissociées, qui étaient sur l'écran. Et je pense qu'en fait, c'était tout ce que je n'arrivais pas à dire, qui était là, et le silence dans lequel j'étais murée aussi. Et qu'il y avait ces deux visages dans lesquels...
Parce qu'il y a deux femmes, deux actrices,
oui.
C'est ça?
Une qui parle et l'autre qui ne parle pas. Et l'infirmière est celle qui parle, qui doit s'occuper d'une comédienne qui, du jour au lendemain, refuse de parler. Et donc elle est là pour prendre soin d'elle, et au final, c'est... on commence à se demander même si finalement la comédienne existe, en fait, si elle n'est pas simplement un miroir devant lequel l'autre se confie.
Alors vous en sortez évidemment troublé, même au-delà, touché au cœur, et vous décidez d'aller rencontrer celui qui a produit ce choc-là en vous, Bergman lui-même. Donc vous partez en Suède, vous avez 20 ans, c'est ça? Et vous dites, je vais trouver sa maison, je vais lui parler.
Ben, en fait, j'ai vu toute la rétrospective, j'ai vu tous les jours, j'allais voir un film de Bergman. Pour moi, c'était, il y en a tellement que j'aime, À travers le miroir, enfin toute l'époque de Forum. Et à la fin de l'été, j'ai dit, je veux aller là-bas, je veux aller sur cette île, et j'aimerais le rencontrer. J'avais 20 ans, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi? Enfin, et pour moi, c'était une obsession. Il fallait que je rencontre cet homme, quoi. Enfin, et donc j'y suis allée plusieurs fois. Au début, je ne trouvais pas la maison. En plus, bon, je circulais à vélo, je n'avais pas le permis de conduire. Enfin, j'étais un peu perdue, quoi, sur mon île. J'étais en même temps dans cet univers où quelque part je pouvais retrouver les traces de ce que j'avais aimé dans ces films et me les approprier pour comprendre en fait ce qui m'avait autant touché chez lui.
Vous avez fini par le trouver, vous frappez à la porte, au bout du troisième voyage je crois, vous frappez à la porte, il vous ouvre, il est furieux.
Oui,
qu'est-ce que c'est que cette fan qui vient, qui se tape plein cru chez moi, pour résumer. Et en fait, il va vous interroger beaucoup sur vous pour essayer de comprendre quelles sont vos motivations, c'est ça?
Oui, en fait, moi je pensais l'interroger sur sa vie, ses films, mais en fait, non, il m'a attrapé par le col du manteau, il m'a jeté sur une chaise, sous la lumière en douche, et il m'a fait un interrogatoire. Qui es-tu? Enfin, donc quelque part, c'était un peu cette dernière mise en scène dans une cuisine avec une inconnue. Et c'est drôle parce que quand on connaît un peu les écrits de Bergman aussi, il dit que quand il a eu un film qui lui est venu, c'est toujours des voix qu'il entend et qu'il y a quelqu'un qui vient, qui lui parle. Donc peut-être il y a certains moments où il a dû se demander si j'étais pas
une voix, une apparition.
Une apparition, je ne sais pas, parce qu'en plus c'était la tombée de la nuit. C'était assez étrange pour lui.
Partez au petit matin?
C'est pas tout à fait ça. En fait, il y a eu un moment extrêmement difficile entre nous où il ne voulait. En fait, il voulait juste faire entendre qu'il était en colère.
Ouais.
Et puis, à un moment, ça a vraiment basculé. Parce qu'il a compris pourquoi j'étais là. Enfin, l'évidence, en fait, et la simplicité de mon geste, hein, qui était quand même très lié à l'absence de mon père. Et donc, j'avais décidé que cet homme était mon père. Et je voulais lui dire que. Je voulais lui dire ça, et puis je crois que je voulais inconsciemment faire partie de ces images qui se souviennent de moi, quoi. Que je fasse partie de ces femmes, des femmes de sa vie. Je pensais pas ça à l'époque, quoi. Mais je savais que cette soirée aurait une fin, et je pense que avant que je parte, quand il m'a, dans le couloir, il m'a pris dans ses bras, moi je. Pour moi, c'était un geste de réparation absolue. Enfin, et il en avait certainement besoin aussi, lui, dans sa solitude.
Vous écrirez le récit de cette nuit, Faro, une nuit avec Ingmar Bergman, que vous publierez bien après. Elle a changé pas mal de choses, cette nuit en vous. Elle vous a permis, cette fois-ci, de larguer les amarres, de partir de chez vos parents. Vous n'étiez pas encore parti, mais ça y est, après ce voyage-là, ça y est, non seulement vous écrivez, mais en plus, vous partez, vous vivez votre vie d'adulte, enfin, d'autant que vous avez terminé vos études. Là, et que vous avez commencé à travailler, là, vous rêvez de films d'auteur, et pour gagner votre vie, vous êtes à la régie sur des blockbusters, donc on ne peut pas faire plus loin de vous. Donc vous partez à nouveau, vous êtes tombée amoureuse d'un Tchèque, c'est lui qui vous invite à voyager. À bourlinguer, et vous allez passer comme ça plusieurs années de voyages tout autour de l'Europe, je crois. Avec le recul, comment ces voyages vous ont construite?
Je crois que cet homme, en quelque sorte, Marek, c'était la première fois que j'allais vers mon désir. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, et je pense que cette soif de voyage, d'ailleurs, c'était ok, je largue les valises et maintenant je vais faire ma vie à moi. Je suis finalement peut-être de nulle part, mais allons voir comment c'est de l'autre côté. Enfin,
et je vais me créer moi, je vais naître à moi-même, comme je l'ai décidé, quand je l'ai décidé.
Parler d'autres langues que ma langue maternelle.
Entre deux voyages, vous posez vos valises à Paris et vous
vous posez, vous, prête à être regardée, peinte, dessinée, votre corps, cette fois, sera votre allié. Sur cette musique d'Arvo Pärt, Tabula Rasa, vous êtes modèle pour peintre. Qu'est-ce que ça raconte du rapport que vous aviez à votre corps à ce moment-là ?
Mais je pense qu'il fallait que j'accepte d'être regardée. Mais j'accepte le regard de l'autre et de ne pas fuir ce regard, de me considérer pour ce que j'étais, de ne pas me juger. Et puis le regard d'un peintre, enfin, c'est des gens en fait qui sont vraiment beaucoup plus à l'écoute. Et puis ils ont un rapport à la. Par exemple, ils sont obligés souvent de reculer pour voir si les proportions sont bonnes. Mais je pense qu'ils ont un rapport au monde qui est beaucoup plus sain que les autres. Et du coup, quelqu'un qui pose... Tout le monde est beau à travers les yeux d'un peintre. Parce qu'il va toujours essayer de déceler justement la présence de l'autre, le caractère.
La question pour vous n'était plus le poids et depuis longtemps. Je crois que vous avez beaucoup maigri au lycée. C'est ça. Donc c'était derrière vous, mais ça laisse des traces.
Mais ça laisse des traces. J'ai toujours un peu un rapport un peu masochiste hein, à mon corps. Hein. Je sais. Hein, c'est. Mais en tout cas, je pense que quand j'ai fait ça, même dans l'intimité, pour moi, c'était impossible de me balader nue devant un homme. Hein, j'avais un peu honte, quoi. Mais après ça, non. Je pense que j'avais besoin d'être hors des complexes et que ça m'a permis ça.
Vous arrêtez, vous avez une trentaine d'années, parce que vous en aviez fait le tour ou pour d'autres raisons ?
Je pense que oui, j'avais besoin de sortir de l'immobilité. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, parce que je passais beaucoup de temps dans des avions à partir. À côté de ça, je restais
assise,
immobile, nue, devant des personnes parfois inconnues. Hein. Et qu'en parallèle, ma mère d'accueil était malade et je m'occupais de ce corps malade qui était immobile et que quelque part, je trouvais dans... Il y avait une forme de honte à l'intérieur de moi qui avait fait que j'avais posé et je voyais que c'était quelque chose qui était visible dans le corps de ma mère et je pense que j'avais besoin aussi justement de sortir de cette immobilité et de plus être dans une forme de passivité mais de passer à l'action.
Arlette va mourir en 2012, à peu près au moment où vous arrêtez de poser pour des peintres. Ça y est, c'est une nouvelle page qui se tourne. Vous êtes prête à prendre une caméra, à prendre un stylo, à filmer, à écrire, à raconter. Les mots sont votre matière première. Vous ne cesserez de les sculpter. À la technique ce soir, Jean-Philippe Jeanne, Anaïs Reynard à la réalisation, Félix Vivier, chargé de programmation. Et ça, c'est Gossip sur France Inter.
Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel?
Power, c'est Gossip et c'est bon. Merci Djoubaka, programmateur musical des Marges. Vous en retrouverez évidemment toute la playlist sur l'appli France Inter, exactement à l'endroit où vous pourrez nous podcaster. Et ouais.
En marge. Sur France Inter.
Joël Varenne, on l'évoquait au tout début de cette émission, le déclic pour raconter l'histoire de Boulette, c'était quoi ? À quel moment vous dites, en fait, cette histoire, je vais la raconter, c'est maintenant ?
Ben, à l'époque, j'avais déjà publié deux livres, mais j'ai commencé un peu à m'intéresser un peu plus à cette histoire. Enfin, je voulais écrire sur le modèle, comme je l'ai dit. Et je pense que...
Mais c'est pas là-dessus que vous écrivez sur l'enfance. Qu'est-ce qui vous donne envie de, d'écrire votre enfance ?
Je pense que c'est lié au fait que j'étais avec un homme qui avait 27 ans de plus que moi, avec qui j'ai partagé ma vie pendant 3 ans. Et je pense que lui ne pouvait pas me voir autrement que comme un enfant, en quelque sorte. Ouais. En plus, il était comédien, donc c'était pratique pour jouer tous les rôles. Mmh. Et puis, toutes les mises en scène que j'avais pas réglées, c'était bien, parce qu'il pouvait, avec son consentement, jouer tous les rôles. Donc c'était parfait, mais à un moment, en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de retrouver le véritable enfant en moi, et que j'ai commencé vraiment à écrire à terminer Boulette, à entrer vraiment dans le vif dans l'histoire, à aller voir ce dossier au moment où j'avais commencé à prendre la décision de quitter cet homme.
Qu'est-ce que ça a libéré chez vous ? Ou qu'est-ce que ça a réconcilié ?
C'est étrange parce que quand je l'ai écrit vraiment presque d'une traite. Il y avait vraiment une nécessité. Ça a été assez rapide, mais c'est plus au moment de la sortie où je me suis sentie mais nue comme un verre. J'ai un peu passé des sales quarts d'heure par moment. Mais en fait, c'est comme si j'avais vécu tout ça à distance de moi-même pendant...
Là encore, oui.
Pendant de nombreuses années et que quelque part, là, je me prenais tout dans la gueule. Enfin, je me rendais compte de la violence de tout ça, malgré que ce soit... Il y a des côtés assez comiques dans le texte, mais il y a quand même énormément de violence. Et je me suis dit qu'il était temps, maintenant, vraiment, de me considérer et de cultiver l'enfant joyeux que je n'ai pas pu être à certains moments. Ouais.
Arlette, votre mère d'accueil ne l'a pas lu, on le disait, elle est partie avant. Votre mère naturelle, en revanche, est toujours là. Elle l'a lu, le livre. Elle vous en a dit quoi ?
Alors, moi, j'avais très peur. Je m'imaginais qu'elle allait me faire un procès, etc. Enfin bon. Et en fait, étrangement, elle est très fière.
C'est
je pense que comme elle vit dans une fiction permanente, là, elle joue un rôle.
Okay. Vos relations avec elle, c'est quoi aujourd'hui ?
Je reproduis quand même un petit peu le fait de la voir... 1h30, 2h tous les 15 jours, 3 semaines.
Oui, c'est ça, c'était les visites bimensuelles organisées par les services sociaux quand vous étiez petite. Donc vous la voyez toujours à ce rythme-là, à peu près.
Après, ça peut arriver que je lors d'une réunion familiale, que je la vois un peu plus longtemps.
Et le fait de l'avoir consignée dans un livre, est-ce que c'est une façon pour le coup d'avoir pu la mettre un peu plus à distance ?
Oui, de la mettre à distance et en même temps de me la rendre plus proche.
De la comprendre ?
De la comprendre, de me mettre à sa place. Et puis de... Je pense qu'on sent quand même l'amour d'une mère, malgré ses délires. Et on sent qu'elle a... elle ne comprend pas qu'on lui enlève son enfant. Et puis quand on a un enfant, je pense qu'on doit être quand même très lié. Il y a quelque chose du corps qui fait qu'on ne peut pas s'en éloigner. Enfin, mais je voulais... il y a des gens qui ont lu le livre qui m'ont dit c'est un personnage qu'on aime. On a envie de l'aimer, cette femme. Je crois que c'était une manière de lui dire que je l'aimais malgré tout.
Si je vous parle de l'après, alors de bien après, peut-être même de l'éternité, avec vous Joël Varenne, l'éternité à ce son-là. Une barque sur l'eau, Maurice Ravel. Sur cette barque, vous emporteriez quoi avec vous pour toujours et à jamais? Un objet, quelque chose.
Un objet.
Quelque chose qui vous raconte, qui nous parle de vous,
qui vous incarne.
C'est l'objet que j'ai apporté.
J'ai failli changer et puis j'ai dit non, je prends ça.
Donc cet objet, ben, c'est le mot que m'a écrit Bergman quand on s'est rencontrés.
Ouais.
Donc c'est mon viatique.
Joliment encadré.
Qui est joliment encadré.
Mis sous verre, il nous dit quoi ce mot?
Sous verre. Derrière un dessin de moi d'ailleurs. Donc 28 avril, c'est en suédois. Karajol, nöävesmöt varendra. Åttaret med varandra, sakotet gick. Jag önskar dig en god framtid, Ingmar. Et donc ça dit, maintenant que nous nous sommes rencontrés, cher Joël, et que nous avons parlé de cette rencontre, entre parenthèses, du mieux que nous avons pu, je te souhaite un bel avenir.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment pour ce beau cadeau, Joël Varenne.
Boulette, votre dernier livre est édité chez Grasset. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.
Merci.
Demain, avec ma classe verte, on doit aller voir les oiseaux dans la forêt. Enfin, on ne sait pas s'il y aura encore une forêt.
Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. Savez-vous que votre épargne peut permettre aux jeunes générations de grandir sur une planète vivante? Comment? En désignant le WWF comme bénéficiaire de votre assurance vie.
Demandez votre brochure d'information au 01 73 60 40 40 ou sur www.fr/assurance-vie.
Pour trouver le bonheur, suivez-moi en Grèce.
Éric Emmanuel Schmitt.
Pour vous, j'ai traversé le temps jusqu'au siècle de Périclès. Ensemble, nous marcherons aux abords du Parthénon flambant neuf. Deviserons avec Socrate en personne et partagerons peut-être même sur l'île de Lesbos le lit de la divine Sappho. Un voyage dans le passé? Non. Un voyage là où tout a commencé. Aux sources de la lumière et du bonheur.
La lumière du bonheur. Le roman événement d'Éric Emmanuel Schmitt. Un livre Albin Michel.
En France, les crises sanitaires et économiques ont aggravé la précarité de millions de personnes. À la Fondation Caritas France, nous avons une conviction. La précarité n'est pas une fatalité. Nous soutenir, c'est s'engager pour une France plus fraternelle et proposer des solutions durables et innovantes pour les plus fragiles d'entre nous. Faites un don sur fondationcaritasfrance.org et bénéficiez d'une déduction fiscale. Fondation Caritas France, au plus